19h04. Merci de choisir le réseau Cogeco. Merci d'être là aux amateurs de sport. À venir dans la prochaine heure, on a François Gagnon, direct de Boca Raton. Vous savez, c'est la réunion des directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey. Viendra nous relater un peu ce qui se passe là-bas. On parlera également à cette histoire horrible, jeune Alex Reed de l'Armada Blainville-Boisbriand qui est décédé suite à des complications reliées à l'épilepsie. On aura la chance de parler avec un joueur des Cataractes de Shawinigan, William Cummings, son ami, qui a écrit un texte sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, en tant que papa, là, ça fend le cœur et William sera avec nous. On parlera à Danny Dubé, évidemment, pour les matchs du Canadien qui s'en viennent dans l'Ouest américain. Et Philippe Quentin qui est avec nous. Salut, Philippe.
Salut, Jérémy.
Philippe, dans un premier temps, c'est le légendaire Ted Lindsay qui est décédé à l'âge de 93 ans. On le connaît sous le nom de Terrible Ted, mais également, c'est lui qui a parti le mouvement de l'association des joueurs dans la Ligue nationale de hockey.
Ouais, son héritage, hein, Jérémy, c'est celui d'un joueur extrêmement agressif qui était capable de placer son coude dans le visage de tous ses adversaires. Je disais aujourd'hui qu'il avait eu au-delà de 700 points de suture dans sa carrière. Alors, c'est un gars qui n'avait pas peur d'aller dans les coins, de foncer. Un grand, grand joueur de hockey, mais je pense qu'il faut effectivement revenir sur son héritage comme leader des joueurs dans leur tentative de fonder une association. Et ses efforts, à l'époque, n'ont pas donné les résultats qu'il espérait. C'était dans la deuxième moitié des années 50. Il avait tissé des liens avec des joueurs des autres équipes pour essayer de fonder une association des joueurs. Et quand le propriétaire des Red Wings de Détroit, Jack Adams, a appris ça, il a vu que c'était sérieux, il l'a simplement échangé aux Blackhawks de Chicago, qui était de loin la pire équipe de la Ligue nationale à cette époque-là. Et les Blackhawks l'ont échangé, Jérémy, à l'été 57, après que Ted Lindsay ait connu sa meilleure saison dans la Ligue nationale. 30 buts, 55 passes, 85 points en 70 matchs. Une saison extraordinaire. Et là, on l'a échange pour les mauvaises raisons. Et c'est sûr que cet échange-là, ça a coupé un peu l'énergie de tous ceux qui voulaient fonder une association des joueurs. Ça a pris ensuite une dizaine d'années, 1967, avant qu'on en bâtisse une qui soit sérieuse. Mais ça rappelle tout ça, comment les joueurs à cette époque-là n'avaient aucun pouvoir de négociation. Ils étaient prisonniers de leur équipe. Ils signaient à 14 ans ou 15 ans, ou même encore parfois plus jeunes, des formules. On appelait ça la formule B, la formule C, qui les liaient à une organisation pour le restant de leur jour, à moins que cette organisation-là ne veuille les échanger. Et ça les privait, évidemment, d'offrir leur service aux plus offrants. Ça les privait de toute liberté pour mieux négocier leur salaire. Les salaires, à l'époque, étaient tenus secrets. Personne ne savait ce que le voisin faisait. Ça permettait aux propriétaires, bien sûr, de garder les salaires bas, parce qu'ils pouvaient dire « Écoute, le meilleur joueur, il fait à peine plus que toi. » Alors là, l'autre qui négociait, en fait, personne négociait. Ils acceptaient ce qu'on leur offrait. Ils n'avaient pas un mot à dire, et les propriétaires plaidaient tout le temps qu'ils n'avaient pas un sou, que c'était tellement difficile. Alors, se battre contre ça, il fallait du culot.
Évidemment, il y a plusieurs richissimes joueurs de la Ligue nationale de hockey qui doivent reconnaître la part de Ted Lindsay, ouais. Parce qu'on en est rendu là aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un qui a débuté tout ça, et c'est ce qu'on a vu de la part de Ted Lindsay.
C'est un petit fait intéressant, Jérémy. Son père est un ancien gardien au tout début de la Ligue nationale. Il a même gardé 4 matchs avec les Wanderers de Montréal. C'est une équipe au tout début de la Ligue nationale. Et son père, je disais ça aujourd'hui, c'est une chose que j'ignorais. Son père, quand sa carrière de joueur de hockey a pris fin, il est allé travailler comme mineur dans une mine d'or en Ontario. Et c'est là que il faisait partie d'un syndicat, puis qu'il s'est battu pour les droits lui-même, son père, pour les mineurs. Et c'est là que Ted a appris l'importance de la négociation collective et d'avoir un contrat de travail. Alors, c'est intéressant de voir que tout ça lui vient d'un très jeune âge.
Maintenant, revenons à nos Canadiens qui vont faire un tour du côté de l'Ouest américain. Les Kings demain, jeudi les Sharks, vendredi les Ducks. Et au cours des 5 dernières saisons, c'est 2 victoires, 11 défaites, 2 défaites en prolongation. Ce sera pas facile, le Canadien.
Non, mais quelle belle occasion! Quelle belle occasion pour le Canadien, parce que je t'écoutais tantôt, tu disais les gens étaient un peu nerveux à l'approche de ce voyage, avec raison, t'en discutais avec Mario, et c'est sûr que les résultats des dernières années sont plutôt inquiétants. Mais je pense qu'il y a une occasion à saisir pour le Canadien, justement, dans une course aussi serrée pour participer aux séries éliminatoires. On se demande tout le temps un peu c'est quelle équipe le Canadien? Est-ce que c'est une équipe qui est vraiment solide? Est-ce que c'est une équipe qu'il y a trop de lacunes pour espérer mener ce combat-là de participation aux séries jusqu'au bout. Et là, un séjour de 3 matchs à l'étranger, c'est l'occasion de montrer qu'on est sérieux, c'est l'occasion de montrer qu'on a les ressources pour justement relever ce défi-là. Alors, j'ai hâte de voir si le Canadien réussira. C'est sûr que c'est un lourd défi. Je suis d'accord avec Mario qui disait tantôt contre les Sharks de San Jose, c'est l'évidence, ce sera extrêmement difficile, mais il y a certainement 2 matchs qui sont à la portée du Canadien et il va falloir en profiter. Et je pense aussi, oui, que Jonathan Drouin a son mot à dire là-dedans, puis je pense que Jesperi Kotkaniemi a son mot à dire. Kotkaniemi qui n'a toujours pas de but à l'étranger. Jonathan Drouin, on le sait, c'est beaucoup plus difficile loin du Centre Bell. Alors, c'est le temps là, d'y aller avec un effort remarquable.
Mais Philippe, moi, au-delà de tout ça, au-delà des 3 prochains matchs, tu sais qu'un entraîneur, ça lui pend des cartouches hein, pour être en mesure de bien diriger. Il faut que tu aies de la matière un peu. Et je regarde comment le Canadien débute ses matchs et j'aurais tendance à penser que Claude Julien va vraiment travailler pour s'assurer que ses joueurs aient 3 fois un bon début de match dans ce voyage dans l'Ouest américain.
Oui, je suis pleinement d'accord, mais va aussi falloir qu'il y ait des bonnes fins de match parce que les derniers matchs à l'étranger, là, à part le dernier à New York, là, mais ceux qui ont précédé à Toronto et avant ça, tu te souviens, oui. À Nashville, Tampa et Floride, c'est la 3e période qui a aussi été très difficile. Pendant 2 périodes, le Canadien a tenu le coup face à d'excellentes équipes de la Ligue nationale. Puis en 3e, comme a dit Claude Julien après le match à Tampa Bay, je reprends son expression, on a craqué, mais on avait un petit peu craqué à Nashville 2 jours plus tôt, puis on a un petit peu craqué en 3e aussi en Floride le lendemain, puis on a un petit peu craqué à Toronto quelques jours plus tard. Alors, la 3e période est également très, très difficile, mais au fond, c'est ça le défi d'une équipe de la Ligue nationale, c'est d'être capable de coller 60 minutes cohérentes pour remporter un match, et ça, le Canadien ne le fait pas de façon régulière. Et ça cause un problème, et pour la question, pourquoi en 3e période, tout à coup, on perd un peu cette capacité à générer de l'attaque, à mieux protéger son gardien de but, je pense que c'est là qu'on voit un peu les lacunes du Canadien. On parle de manque de profondeur, mais je pense aussi que c'est plus difficile pour la défensive en 3e période. Je pense que les autres équipes s'ajustent quand même assez bien au style du Canadien. Et ça, il va falloir vraiment essayer de corriger ça, même si ça ne sera pas facile.
Mais on l'a vu, tu sais, il faut être honnête. Je pense que Jeff Petrie a connu des matchs difficiles. Chez Weber, c'était difficile également. Donc, quand tes 2 piliers ont quelques problèmes en défensive par moment, ça devient difficile pour que tout le monde se mette à bien jouer collectivement, défensivement. Là. Ça part de ces gars-là, ça part de Petrie.
Exactement.
Weber,
exactement. C'est difficile pour Weber. Et puis c'est une grosse année pour Weber. Hein, parce que souviens-toi, quand il est revenu au jeu, il a eu un impact formidable là, à son retour. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que sa seule présence pour Carey Price, psychologiquement parlant, ça a été énorme. Price s'est remis à bien jouer à ce moment-là. Puis moi, je pense que c'est l'effet de 2 facteurs. Oui, la présence de Weber sur la patinoire, aucun doute là-dessus. Mais également la présence de Weber dans l'environnement de l'équipe, dans le vestiaire. Je pense que Price avait hâte à ça. Puis ça lui a donné beaucoup d'énergie. Mais là, on voit aussi les craintes que plusieurs personnes, dont moi, avaient à propos de Weber lors du fameux échange. Eh bien, ces craintes-là, elles sont en train de prendre forme. Et c'est le fait qu'il avait 4 ans de plus que Subban, qu'il n'est certainement pas un joueur rapide, certainement pas
Philippe,
taillé pour la Ligue nationale.
Je m'excuse de t'interrompre. Je vais te dire, je serai d'accord avec toi quand on verra la saison prochaine. Parce que quand t'as arrêté pendant 1 an de temps, je pense que ça le rattrape. Présentement, ça le rattrape. Est-ce qu'il sera capable cet été de redoubler d'ardeur à l'entraînement, de retrouver, je dis pas de devenir rapide, mais de retrouver une plus grande mobilité? Et si on arrive la saison prochaine et c'est toujours dans la même situation, je pense qu'on sera obligé de penser que t'as un peu raison. Que le Canadien, c'est un bon bolide, il amène beaucoup, mais il y a quelques lacunes dessus.
Des joueurs qui, à 34 ans, sont meilleurs qu'à 33 ou à 32, on voit pas ça souvent. Je te dirais qu'il y a quand même, je te dirais pas des exceptions, mais je pense que Andriy Markov a fait la preuve que c'est possible. Parce que Markov, tu te souviens, on pensait que c'était fini pour lui là, quand il y a eu ses blessures à répétition au genou, puis il a manqué des dizaines de matchs. Puis finalement, il est revenu, puis il a été très bon pendant encore 1 année ou 2. Alors, souhaitons que Weber puisse faire la même chose, mais je trouve que le jeu de Markov puis le jeu de Weber, c'est pas la même chose. Markov, c'était un gars qui avait l'espèce de flair sur la patinoire pour trouver le coéquipier à découvert, qui était capable de créer des occasions en attaque. Il était très utile sur le jeu de puissance. Weber, c'est un autre style. C'est le gars qui fait peur à l'adversaire, qui nettoie le devant de son but, puis en avantage numérique, s'il est capable de laisser aller son lancer frappé, ben tant mieux. Mais je sais pas si un gars avec ces atouts-là peut véritablement continuer de jouer un un rôle de premier plan puis d'être une vedette de la Ligue nationale à 34, 35, 36 ans? J'ai un certain nombre de doutes à ce propos-là.
C'est le temps qui va nous le dire, mon cher Monsieur Quentin.
Bien d'accord avec toi.
En terminant, parlons d'un petit sympathique contrat de 13 ans, 330 millions pour Bryce Harper. Et là, on parle des expos. Est-ce qu'on doit regarder ça d'une drôle de façon, ce nouveau contrat-là pour Harper?
Le premier réflexe, c'est de s'inquiéter. C'est sûr, quand tu vois ces montants-là, c'est hallucinant. Puis tout ça vient après deux autres contrats absolument formidables. Celui de Manny Machado avec les Padres de San Diego, 300 millions pour 10 ans. Et Nolan Arenado avec les Rockies du Colorado, 260 millions pour 8 ans. Ça commence à... Écoute, c'est près, Jérémy, près de 900 millions de dollars qui ont été consentis à trois joueurs en l'espace d'une semaine ou une dizaine de jours. Là. C'est énorme. Alors, c'est sûr que ça, c'est inquiétant. Mais encore une fois, je pense que quand on analyse ça, souvent on a tendance, puis c'est normal, à mettre nos lunettes hockey, nos lunettes industrie du hockey, plutôt que nos lunettes industrie du baseball. Et c'est très différent. Le modèle économique n'est pas le même. Au baseball, contrairement au hockey, les revenus nationaux de télédiffusion sont tellement importants et les ristournes des plateformes numériques, ça apporte des montants tellement importants aux organisations parce que c'est divisé à parts égales que chaque organisation, là, avant même d'avoir disputé un seul match, reçoit un chèque de 60 millions minimum par saison, 60 millions de dollars américains. Alors, il n'y a pas ça dans la Ligue nationale de hockey. C'est ce qui explique que l'économie des sports est différente. Ça, c'est d'abord et avant tout. Deuxièmement, c'est pas toutes les équipes non plus là, qui étaient dans la course pour Machado ou pour Harper. Les Pirates de Pittsburgh n'étaient pas là. Les Royals de Kansas City n'étaient pas là. Les Indians de Cleveland n'étaient pas là. Tu sais, il y a moyen de faire, de gérer une équipe de baseball autrement que de se lancer à la course de ces, à l'assaut de ces gros noms et de payer des montants aussi faramineux. Puis tu as l'exemple d'équipes qui l'ont fait puis qui le regrettent aujourd'hui. Souviens-toi des Angels de Los Angeles avec les 250 millions accordés à Albert Pujols et ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. Puis il y en a plusieurs mauvais contrats qui ont été donnés. Écoute, je disais même, moi, il y a un analyste aux États-Unis que j'aime beaucoup aujourd'hui, il écrit surtout sur la politique, mais c'est un gars qui s'intéresse beaucoup au sport, c'est Nate Silver de 538. Et lui, il publiait cette semaine, en fait la semaine dernière, une analyse où il disait est-ce que les meilleurs jours de Bryce Harper sont déjà derrière lui à 26 ans? Et c'est un texte qui incitait à la réflexion parce qu'on voyait qu'il avait eu sa meilleure campagne il y a 2 ou 3 ans et que depuis ce temps-là, il n'a pas été capable de la répéter. Et là, il donnait des exemples de joueurs qui, lorsqu'ils vieillissent, ça devient de plus en plus difficile, que à leur meilleur, ils ont 24, 25, 26 ans, puis qu'après, parfois, c'est plus dur, mais c'est le moment où ils vont toucher les plus gros salaires. Alors, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, l'expérience Harper. C'est sûr qu'à terme, là, les Phillies sont très enjoués. Ils ont vendu 200 000 billets pour leur réseau de télévision. Ça va être fantastique. L'intérêt est formidable. Tout le monde a hâte de voir ce qu'Harper va faire, surtout dans cette division-là. Qu'est-ce qu'il va faire contre son ancienne équipe de Washington? Mais pour moi, ils n'ont pas encore gagné leur pari, les Phillies de Philadelphie. C'est ce qui me fait dire qu'il y a moyen d'avoir un autre modèle qu'aller chercher ces gros joueurs-là. C'est pour ça que moi, quand je mets ça dans la balance des Expos 2.0, je me dis non, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète nécessairement, le contrat de Bryce Harper.
Et d'autant plus que Bryce Harper, il y en a un, il est à Philadelphie, puis c'est pour les 13 prochaines années. On est correct. Philippe Quentin, je te remercie énormément d'avoir été avec nous. Je te souhaite une bonne soirée.
Salut Jérémy, bonne soirée à toi aussi.
Merci, au revoir. On s'arrête quelques instants, retour direction Californie. On va parler de ce voyage dans l'Ouest américain du Canadien en compagnie de Danny Dubé.